Dans la cabine exiguë, les cauchemars qui agitent mes nuits me laissent des bleus au matin. C'est toujours la même scène qui me réveille. À cheval sur un macho décontenancé, je me retire brutalement en lui expliquant par le menu combien sa queue manque de volume et de savoir-faire. Après quoi je l'énuclais posément avec une cuillère à glace. Je déteste ce rêve, ce qu'il représente et ce qu'il sous-entend. N'ai-je retrouvé la vue que pour rêver de vengeance aveugle? Les trois violeurs de mon lycée qui, dans une cave moins sombre que prévu, m'ont brûlé les yeux à l'acide pour éviter que je les reconnaisse, sont toujours en détention à Marseille, et ça ne me pose aucun problème. Depuis 12 ans, je les appelle les Castors Juniors, comme les neveux de Donald. Je les ai tués par le ridicule, et jamais je ne rêve d'eux. Entre 18 et 23 ans, je suis allé leur rendre visite, tous les 6 mois, par une sorte de cruauté altruiste, pour leur épargner l'oubli, la tentation de la récidive, stimuler leur envie de rédemption. Ça contrariait ma psy, mais ça me faisait beaucoup de bien. Pour voyager léger dans une vie sans lumière, m'affranchir de toute rancœur toxique, je leur ai accordé un pardon qui n'a rien de chrétien, un pardon purement égoïste, un pardon pervers, un pardon de salope, comme j'adorais me le répéter. Un pardon qui me faisait jouir de leurs remords chauffés à blanc par mon apparente mansuétude. Et quel soulagement de ressortir libre comme l'air, en les sachant d'autant plus enfermés dans leur crime que j'étais venu leur tenir compagnie au parloir en décolleté et jupe moulante. C'était les seuls moments où, trichant de tout mon corps, je me sentais comme avant, sans peur et sans reproche. Quand je me suis installé à Paris, je les ai abandonnés à leur sort avec la même gaieté de cœur. Ils m'ont écrit par l'intermédiaire de mon père à l'école de ski, en disant que je leur manquais, que c'était moche de les laisser tomber après leur avoir fait croire que tout était possible. Tout quoi? Je leur avais donné, tel un os à ronger, le fantasme absolu. Au jour de leur libération, ils s'imaginaient que je viendrais les chercher en taxi pour les réinsérer en m'offrant à eux comme une sainte pute. Voilà ce qu'ils entendaient par rédemption. Bonne. La tentative de suicide de l'un d'eux, annoncée à la radio, ne m'a fait ni chaud ni froid. J'ai passé plus de 10 ans à vivre le présent avec une boulimie joyeuse et méthodique, hors d'atteinte du passé, de ses bonheurs révolus comme de son accident. Pourquoi réactiver, au moment où elle a perdu sa raison d'être, ma peur des hommes en liberté, et vouloir la conjurer au travers de ses rêves sadiques? J'étais quelqu'un de bien dans le noir. Là, j'ai du mal à me reconnaître. Escale à Guernesey. Les maisons bariolées du port, les panneaux indicateurs en vieux patois anglo-normand, le cassoulet local, les sentiers champêtres, le dolmen de Delus et Hauteville House, la demeure de Victor Hugo en exil, peuplée de meubles lourds frappés de ses initiales, de tableaux sans grâce et de tables tournantes dont notre guide récite les prétendus messages d'outre-tombe avec une complaisance enjouée. Les daphniques n'écoutent rien. Elles se querellent. Divergence littéraire, Balzac opposé à Hugo, fiscale, Guernesey confronté à Nassau, plaisancière, inconvénients respectifs du ketch et du sloop. Elles ne sont mariées que depuis 3 semaines, mais au rythme où elles se disputent, elles risquent fort d'être les pionnières du divorce pour tous. Fred m'entraîne dans le petit escalier menant au lookout, ce grenier vitré où Hugo écrivait debout en balançant les feuilles de son lutrin sans les numéroter. Avec une paillardise un peu pénible, elle me raconte le gros cul de Juliette Drouet frétillant tandis qu'elle ramasse les pages en levrette et les remet dans l'ordre après s'être fait trousser. Envie d'être seule. Quand on rejoint le groupe, la guide est en train de raconter les merveilleuses relations entre Victor et sa chienne Chounia. J'en ai marre. Je leur dis que je vais me balader et qu'on se retrouve à bord. Je redescends jusqu'au port à travers les sentiers d'hortensia et de bruyère. J'entre dans un cyberpub, je commande une pinte de Guinness, je me connecte, et j'envoie le mail que j'ai sur le cœur depuis qu'on a quitté Honfleur. claire.chauffour@laposte.fr. C'est la mère de Cédric, mon meilleur copain de terminale devenu, l'espace d'un quart d'heure, le complice de mes bourreaux. Chaque 8 novembre, date anniversaire de l'accident, Claire Chauffour m'envoie sur ma boîte RTL un message de compassion auquel je ne réponds jamais. D'une seule phrase, sans bonjour ni adieu, je l'informe que j'ai recouvré la vue que m'avait ôtée son fils. Ça n'efface pas le crime, ça ne réduit pas la peine, mais ça soulagera le cœur d'une mère. C'est cela, le véritable pardon. Celui à côté duquel je suis passé. En cliquant pour envoyer le mail, j'éprouve un immense sentiment de libération. Comme si mes yeux venaient de guérir pour de bon, sans séquelles ni effets secondaires. Comme si je retrouvais d'un coup la pleine lumière. Parce que l'illusion de noirceur se dissipe. Je vide ma pinte de bière et m'adosse à la banquette en sky. Pour continuer sur cette voie, il faudrait maintenant que je m'attaque à l'autre conséquence du 8 novembre, mon rapport aux hommes. Mais là, il ne suffira pas d'un simple clic.